Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, c'est la Trêve Tennistique. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Mon invité cette semaine est Grégoire Jacques. Salut Greg. Greg, c'est possible ?
Greg, c'est tout à fait possible.
Bien. Allez, c'est plus court. Salut Greg, comment vas-tu ?
Eh bien, ça va très bien. De retour à la maison après cette année mouvementée. Donc, tout va bien. Tout va bien.
Donc, on va essayer de balayer un certain nombre de sujets. On va commencer par ton parcours. Avant d'avoir été coach, avant d'être coach, tu as été joueur. Et c'est quoi, si tu devais résumer ton parcours, de ton plus jeune âge, sans faire chaque étape, évidemment, ça serait trop long, mais ta progression, ton envie de jouer au tennis, cette passion, comment elle est née, et finalement, voilà, et de nous donner quelques petites choses, justement, sur ta carrière de joueur aussi.
Ma passion, elle est née très tôt. Mon père était à moins 2, donc c'est lui qui a commencé à me faire taper des balles, etc. J'ai eu un cursus pas du tout classique, on va dire, pour le joueur de tennis pro, parce que j'ai fait une scolarité tout à fait classique, collège, lycée, j'ai fait des études aussi.
Horaires aménagés ou t'avais quand même des horaires aménagés ?
J'avais quelques horaires aménagés. Je me souviens avoir le mardi après-midi et le jeudi après-midi au lycée pour aller m'entraîner à la ligue. Mais bon, j'étais pas du tout dans un profil, on va dire, mais j'étais pas du tout dans les meilleurs Français de mon âge ou quoi que ce soit. Je me suis même à 13 ans, je crois que je me suis fait virer de ma ligue. Donc j'étais tout petit, je me faisais bouffer par tout le monde. Et puis finalement, j'ai continué parce que j'aimais ça. Et j'ai continué à progresser. J'ai commencé à rattraper les mecs à peu près au moment où ça commence à être critique, vers 0, 1, 6, tout ça. Et puis après, j'ai continué à progresser. Et puis finalement, aujourd'hui, de mon âge, on est plus très nombreux du tout. Moi, je suis en 92, alors il n'y a pas de 92 dans le top 100. Les meilleurs, c'était Lestienne. Il y avait Gianni Minna. Et donc voilà, au fur et à mesure, je les ai un peu rattrapés. On s'est retrouvés à peu près au même stade. Et après, moi, j'ai joué... Au début, j'ai joué sur le circuit, mais j'étais universitaire en même temps. J'étais en STAPS. Je faisais partie de l'équipe de France universitaire, des expériences. C'était génial. Ouais, vraiment génial. Et après, au bout de 2 ans en STAPS, j'ai arrêté parce que le gros problème, c'est qu'en France, faire les études et le tennis, c'est très compliqué. Parce que c'est un style de vie. Bah, voilà, quand on joue au tennis, on part toutes les semaines, etc. Donc, assez compliqué. Il y a une décision, c'est que en fait, je fais mon premier futur et je gagne tout de suite mon premier futur, premier point. Je passe les qualifs. Assez rapidement, j'arrive à avoir des points genre pour monter 800. Et évidemment, se pose encore le problème des études parce que c'est pareil, c'est chiant. Il faut toujours envoyer des mails pour dire « cette semaine, je ne serai pas là ». Tu reviens, tu essaies de rattraper les cours un peu partout. Enfin, c'est un peu le bazar. Donc, du coup, à partir de ce moment où je suis 800, je me dis on va peut-être essayer de jouer à fond. Et puis, au final, je n'ai pas eu une carrière de dingue, mais je suis monté 330, ce qui est honorable. C'était un peu moins bien que ce que je me suis fixé. Moi, je m'étais fixé de participer aux 4 qualifications de Grand Chelem. Donc, d'être dans les 250. T'es loin sans être loin, mais t'es quand même un peu loin quand t'es 330 parce qu'il y a encore un bout de chemin à faire. Et avec l'usure des futurs, etc., au bout de 5 ans, tu te regardes dans une glace, tu te dis qu'est-ce que je fais ? Et j'avais envie de. J'avais. Ce truc de coaching m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, je me suis lancé là-dedans. Peut-être que c'est une erreur, mais je le sentais parce que, par exemple, en Challenger, je n'arrivais pas à aller loin. Je faisais qualifier deuxième tour, mais c'est des trucs où tu prends 8, 10 points, où tu n'avances pas plus que si tu fais une finale d'un futur. Et je savais que pour passer au truc d'après, il fallait bien jouer en Challenger ou alors gagner à l'époque plein de futurs dans l'année. Mais bon, voilà, moi j'étais plus dans l'optique de me dire, va jouer dans des conditions qui ressemblent après à ce qui se passe après, jouer avec des ramasseurs, jouer avec 6 balles, des changements de balles à 9 et... enfin, des trucs qui ressemblent plus au circuit d'après, on va dire. Et dans cette catégorie-là, c'est super dur, quoi. Je veux dire, quand tu n'as pas le niveau pour être vraiment plus fort que tous ces mecs-là, bah, t'en chies grave. Quand on n'a pas le niveau nécessaire, eh ben, on se pose des questions parce qu'à chaque semaine, on revient, on les a battus une fois, allez, deux fois d'affilée, et puis on n'y arrive pas. Et puis, au bout d'un moment, bah, voilà, tu t'uses, quoi, forcément.
Tu la prends naturellement, la décision, sans frustration, sans aucune...
Frustration, non. Sans frustration, parce que... Ça m'intéresse. Je me sentais pas. Le truc de coach, je pense que tu peux vivre aussi beaucoup de choses que j'ai même, enfin que j'ai pas pu faire en joueur. Et peut-être que d'aller vers le coaching, eh ben tu peux ressentir des émotions, vivre des choses que moi j'ai pas ressenti en tant que joueur, mais que tu peux partager avec un joueur à plus haut niveau, quoi. Donc ça m'intéressait. Le partage m'intéresse beaucoup. Moi, là, je suis pas très solitaire. Donc pour un joueur de tennis, c'est pas évident parce que souvent tu es tout seul. Mais voilà, donc ça s'est fait naturellement et sans trop de soucis.
Et justement, ce passage, comment il se passe? Facilement, enfin très rapidement, tu trouves le moyen d'entraîner des joueurs parce que finalement, c'est pas toujours. Oui.
Tu passes un coup de téléphone à Eric Vinogradsky qui s'occupe de la formation DE pour les anciens joueurs. Tu t'inscris et puis après, je me suis retrouvé dans un groupe. Comment?
Tu passes ton diplôme.
Ouais, tu passes ton diplôme de ton DEJEPS et voilà, tu pars sur une formation qui est aménagée pour les anciens joueurs. Donc, on s'est retrouvé à 12 là-dedans, à se préparer plus à être entraîneur de club qu'entraîneur de joueurs de haut niveau. Mais c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris sur cette formation et c'est un truc aussi que je voulais faire parce que quand j'étais plus jeune, j'ai passé énormément de temps dans les clubs à donner des cours pour les enfants. J'ai passé mon truc d'initiateur, mon AMT, mon DE. Enfin, bref, j'étais très, très club. Je suis resté 15 ans dans le même club, un petit club de Seine-et-Marne. Et j'ai adoré ça. J'adore tout ce qui est la vie associative, etc. Donc, ça m'a vraiment intéressé. Et de remettre le pied là-dedans, ça m'a fait du bien. Donc, voilà, c'était très intéressant. Mais je ne me verrais pas être entraîneur dans un club actuellement.
D'accord. Mais qu'est-ce qui t'anime en fait à ce moment-là? C'est plus de sentir qu'au regard de ton parcours, tu peux transmettre et faire progresser. J'imagine que c'est cette dimension qui doit être quand même très excitante quand tu es coach, de voir qu'il y a la théorie et que derrière, ça peut vraiment être transféré et s'appliquer.
Ouais. Il y a le côté théorique, il y a aussi le côté relationnel qui m'intéresse beaucoup.
Dans la transmission.
Sentir, ouais. Ouais, la transmission. Mais comment tu vas le transmettre? À quelle force? À quelle allure? Apprendre à connaître le joueur. Bah voilà, moi j'ai appris à connaître Edouard et Jürgen par exemple cette année. Ça a mis plus ou moins de temps. Je trouve ça très intéressant. Ce côté vraiment sentir que l'autre t'écoute, l'intègre pas. Pourquoi? Enfin bref, et tout ça. Parce qu'après, bon, techniquement, ça dépend après qui tu entraînes, mais. Quand tu entraînes Edouard et Jürgen, bah, tu ne vas pas forcément leur apprendre à faire une volée de coup droit comme un jeune de 15 ans. Quoi. Donc, tout ce truc-là est assez excitant, ouais, parce que tu dois adapter ton comportement, ta façon d'être en fonction de ton public. Quoi. Si tu as un joueur qui a 37 ans, un joueur qui a 20 ans, un joueur qui a 22, qui est en train de monter, machin. Et ça, tout ça, je trouve ça hyper intéressant.
Juste pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est Jürgen Melzer et Gérasselin. que tu as entraîné cette année.
Et je me dis, écoute, pour le moment je joue, et puis s'il y a un projet intéressant qui vient à moi, eh ben, je réfléchirai à ce moment-là, mais je n'avais pas envie pour moi c'est très important que le joueur vienne chercher le coach et pas l'inverse, donc je n'avais pas du tout envie d'aller à la pêche aux joueurs ou quoi que ce soit ou de dire, ouh, je suis là. Voilà, s'il y a un truc qui devait venir à moi, eh ben, voilà. Et donc Edouard, allez, j'ai joué 3 mois les tournois français. On était en match par équipe en novembre dernier, c'était en novembre 2019. Et Edouard m'envoie un message en me demandant ce que je fais l'année prochaine, si je suis dispo, est-ce que ça m'intéresse, patati patata. Et finalement, je fais rapidement le choix de partir avec lui et donc du coup de mettre ma vie de joueur de tennis d'un coup complètement aux oubliettes.
Et justement, sur cette vie de joueur de tennis, pour finir, sur les difficultés du joueur, donc toi, tu as été aux alentours de la 300e place mondiale, c'est ce que tu nous disais. C'est quoi les difficultés principales finalement que tu rencontres? Alors, elles sont peut-être financières déjà.
Ben moi, j'étais, il y avait l'ITF. L'ITF a fait une enquête pour savoir à peu près à quel classement tu gagnes de l'argent. Et moi, j'étais pile poil au cut. En fait, moi, je gagnais environ, bon, après, ça dépend des joueurs, mais moi, je gagnais 30 000 euros, on va dire, par an. Et j'en dépensais 30 000 à peu près sur ma saison, sur les voyages, sur les entraînements, sur ma... Donc, j'étais à peu près, voilà, j'étais 330, 340 et j'étais au cut, on va dire, à zéro, quoi. C'est-à-dire, tous les mecs. En moyenne, hein, bien sûr, c'est une moyenne, mais tous les mecs au-dessus, 360, etc., perdaient un peu d'argent. Évidemment, je ne parle pas des mecs 600, 700. Et les meilleurs gagnaient un peu d'argent. Donc oui, c'est financièrement, bien sûr que c'est dur. Parce que comme je te dis, une année, ouais, ça coûte entre 25 et 30 000, quoi. Donc 25 et 30 000, il faut les sortir. Hein, ça vient pas tout seul. Et puis après, le deuxième... problème, c'est tout simplement le niveau de jeu, quoi. C'est que c'est très très dense et de plus en plus dense. Moi, je vois là encore, je discutais il y a 3 jours avec Gianni Mina qui était quand même 200, je sais pas, 200 et quelques, et qu'il a voulu reprendre et qu'il l'avait déjà fait même il y a 4 ans. Il avait repris déjà, il était remonté 300 et il me dit là, j'ai repris, j'ai l'impression d'avoir le même niveau de jeu, mais le problème, c'est que c'est de plus en plus fort. Donc là, eh ben, il n'arrive pas à remonter encore assez vite. Là, il doit être encore 700 ou quelque chose comme ça. Tout ça pour dire que les mecs jouent excessivement bien, quoi. Même les mecs 700e maintenant, 700, 600. Bah, autre exemple, Kenny DeShepherd, qui était quand même 65e mondial, qui continue à se battre. Il a été blessé, machin. Bah, tu regarderas, ça fait 6 mois qu'il fait des futurs. Enfin, bon, là, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin, il fait plein de futurs. Et sur des futurs, eh ben, il n'arrive pas à aller au bout parce que les mecs jouent très bien, quoi. Donc, il fait quart. Mais quart de finale, c'est 2 points. Donc, 2 points, tu vas passer de 650 à 638 et tu n'avances pas. Et tout ça pour dire que même un mec comme Kenny Schaefer, qui a été quand même 65e mondial, bah, le mec, il ne se frise pas du tout dans les futurs, quoi. Au contraire. Donc, c'est un niveau qui est d'une densité terrible. Les conditions sont très, très dures parce que tu voyages dans des trucs pourris, tu prends tout le temps le vol le moins cher, tu prends l'hôtel le moins cher. Tu t'entraînes avec des balles qui sont pourries, tu demandes une bouteille d'eau, on te demande tout le temps 1 ou 2 euros. Enfin, voilà, c'est des conditions qui sont très usantes, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que faire 3 ans futur, c'est pas faire 3 ans soit en challenger, soit sur le grand circuit. 3 ans futur, faut t'arracher, quoi. Voilà.
Et
Et
c'est
c'est ça
vraiment
qui.
ça qui t'a usé, c'est ce qui vraiment t'a éloigné au fur et à mesure justement de cette envie de
Ouais.
continuer à être
Ouais.
300 et finalement continuer les futurs
Bah
enchaînés.
ouais.
La galère, en fait, parce que vraiment, tu peux parler de galère, ouais.
Ah ouais, tu peux parler de galère. Je veux dire, t'arrives, moi j'ai un tournoi, je suis un futur en Égypte. Si tu veux, je fais quart de finale en simple, demi-finale en double, ce qui n'est pas monstrueux, mais une semaine correcte. Tu vas chercher ton prize money, le mec me dit, tu me dois 80 $ parce que tu as l'hôtel à payer, tu as machin et truc. Tu vois, tu vas chercher ton argent, on me dit, tu me dois 80 $. Bon, bah, tu donnes 80 $, d'ailleurs, tu prends ton billet pour rentrer qui coûte 350 euros, et puis tu es sur une semaine où tu as dépensé 500 balles alors que tu as fait un. Résultat qui n'est pas monstrueux, mais tu vois, quart en simple, demi en double, ça veut dire bon, tu as gagné quelques matchs, quoi. Voilà. Et ça, toutes les semaines, c'est usant, quoi. C'est usant.
Quand je te demandais si tu n'étais pas frustré, tu n'as pas l'impression de ne pas avoir été aidé par la Fédé, peut-être, par différentes institutions, j'en sais rien. Tu as ressenti ça ou jamais? Enfin, c'est juste tu as l'air assez, enfin, je trouve lucide en tout cas, si tu parles vachement de ton niveau de jeu, tu dis bah, voilà, à un moment donné, c'était dense, c'était fort, il fallait gagner 3, 4, 5 matchs de suite. Je pouvais en gagner un, peut-être deux, mais pas plus. Enfin, tu vois, après, mais c'est juste des questions que je veux poser, le ressenti à un moment où
Les aides,
un petit coup de pouce que tu n'as pas eu, par exemple, qui aurait pu t'aider.
ouais, une aide par définition, c'est pas un dû, quoi. Je veux dire, on te doit pas une aide parce que tu es français et que tu fais partie d'une fédération qui est plus puissante que la fédération bulgare. Et pourquoi moi j'aurais le droit à une aide? Enfin, si, oui, parce que je fais partie de ce pays, mais je ressens pas genre
Non, mais
le.
parce que tu peux penser à avoir beaucoup travaillé, un certain talent peut-être, des possibilités en fait, et un potentiel. C'est par rapport à ça que je dis ça, pas par rapport simplement au fait d'être dans le bon pays avec justement, comme tu le dis, une fédé qui a des moyens plus importants que
Pas
d'autres.
plus que les autres au final. Pas
D'accord.
plus que les autres. Je me dis pas, moi j'étais différent des autres, on aura dû m'aider.
D'accord.
Enfin, faut pas se mentir, quoi. Je veux dire, il y a des mecs qui pour
C'est
moi étaient plus forts
rare
que
comme
moi.
Il y en a beaucoup qui ne pensent pas comme ça et qui ne se disent pas ça. Il y en a beaucoup qui pensent que tout le monde devrait être aidé. Tu vois, alors que,
Bah, tu
évidemment,
vois,
avoir
prends l'exemple.
les moyens sont pas
Ouais,
les mêmes.
mais on peut prendre l'exemple des wildcards. Tu prends l'exemple des wildcards. J'en discutais encore il y a 2 jours. Les wildcards, pour moi, c'est un truc qui devient de plus en plus malsain parce que on prend ça. Moi, quand j'étais 330, je me sentais légitime. J'avais gagné pas mal de matchs sur Terre. J'avais gagné un ou deux futurs sur Terre. Enfin, bref. Et d'un coup, tu te sens légitime à recevoir une wildcard parce que tu es français, machin. Et en fait, je ne l'ai pas eu. Et donc, du coup, la frustration, elle devient très grande. Tu ressens même de la jalousie par rapport à ceux qui l'ont, qui peut-être le méritaient moins que toi, machin. Au final, les wildcards, quand tu es français, bah, quand tu l'as, tu te dis que c'est normal. Et quand tu ne l'as pas, tu te dis que c'est un scandale. Donc, au final, c'est. Tu vois, et genre, personne te doit une wildcard. C'est même pas parce que tu es. Par exemple, bah, je te reprends notre Bulgare, qui est 260e mondial, qui est à 20 places de rentrer dans les qualifs. Bah, lui, il ne se pose même pas la question, alors que probablement qu'il la mérite plus que toi. Donc, tout ce qui est aide, les wildcards font partie, je trouve, des aides. C'est une aide, une wildcard, tu vois. On te donne une chance de. Bah, je veux dire, pour moi, c'est pas. Soit tu fais un truc purement sportif où tu établis des règles et les plus méritants, ceux qui ont les meilleurs résultats, automatiquement ont des aides, ont cette wildcard. Mais le faire comme ça de façon arbitraire, tu vois, tout ça, c'est des aides, mais je sais pas. Qu'est-ce qui fait que moi, français, je mérite plus? Enfin bref, voilà. Donc non, j'ai pas du tout. J'essaie de pas avoir ce truc-là.
On ne va pas débattre sur l'histoire des wildcards. Ben, moi, je suis bien placé pour en parler. Mais en effet, de toute façon, tu fais les heureux sont uniquement ceux qui finalement les ont et tous les autres crient à l'injustice. De toute
Ouais,
façon,
mais
c'est
ils sont pas forcément heureux. C'est ça le problème, je trouve. C'est
pas
que très
assez.
souvent, c'est attendu.
Bien sûr,
Tu vois
non,
ce que
mais
je veux dire?
je comprends. C'est indu. C'est ce que tu dis, c'est indu. Ça devient
Voilà,
indu.
c'est indu.
Et c'est malheureux, en
Voilà.
effet, qu'ils ne tiennent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir bénéficier,
Exactement.
si tu veux, de cette wildcard et des aides financières qui vont avec, parce que finalement, c'est quand même beaucoup d'argent.
Bah ouais.
Pour financer une année, quand tu as wildcard dans le tableau à Roland aujourd'hui, c'est quand même colossal. Mais tu as
Bah
raison.
ouais.
Je ne crois pas que ce soit fait de manière arbitraire. Il y a quand même un collège, si tu veux, d'experts qui se réunit et qui est capable de dire aujourd'hui ce qu'il faut, celles et ceux d'ailleurs qu'il faut mettre en avant plus, hein, et s'en garder sous le coude aussi pour des jeunes, parce que c'est important aussi. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver entre tout ça, mais il y aura toujours, toujours des difficultés à finalement trouver un consensus. C'est normal, parce qu'on a tous des regards
Complètement d'accord.
différents sur la notion de résultat. Ok, c'est très clair, mais tu ne peux pas être que là-dessus parce que tu as aussi le potentiel et certains joueurs qui ont été blessés, des anciens qui méritent parce qu'ils ont pour service rendu à la France, on le sait très bien. Donc en fait, il y a des années où c'est plus compliqué que d'autres et il y a toujours une ou deux wildcards chez les filles comme chez les garçons qui sont finalement, qui créent quelques polémiques et c'est pas grave.
Mais je trouve ça décevant
Oui, bien sûr.
d'avoir cette réaction quand tu es 300 et quelques, de te dire, mais même à la limite, ce n'est pas contre les organisateurs ou les mecs qui choisissent qui. C'est plutôt toi en tant que joueur de te dire, putain, j'ai été 300, mais je me mets dans le lot hein, parce que j'ai été déçu, frustré, machin. Et tu te dis, bah, en fait, tais-toi. Je veux dire, t'as qu'à être meilleur. Si t'es 250, tu feras Roland-Garros, c'est terminé, point ligne, quoi. Tu
En fait,
vois?
le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait de savoir qu'il y a des wildcards, tu l'attends énormément, alors que finalement,
Sûr.
à toi d'être dans le cut et il n'y a pas de problème.
Voilà. Et tu te démerdes et puis c'est tout. Et
Là,
si tu comptes tout le temps sur les aides, bah t'avances pas, quoi. Voilà.
on est d'accord. Écoute, on va passer justement alors maintenant à ce côté un petit peu, cette casquette de coach. Tu as commencé à en parler, la transmission, l'envie vraiment de comprendre un petit peu. Le joueur, ils sont tous différents, chaque parcours est singulier, c'est ce qui fait aussi finalement la richesse de ce job. Tu ne peux pas reproduire finalement la même chose avec chaque joueur, sinon ça serait trop facile. Il y a des moments, c'est ce que tu disais finalement, où ils sont réceptifs et d'autres moments où ils ne le sont pas du tout. Donc trouver le bon moment, le bon endroit pour essayer de faire passer justement des messages, pas toujours évident, évidemment, à faire passer, parce que le principe, c'est de dire des choses, hein, parfois qui ne sont pas forcément à vouloir caresser les athlètes dans le sens du poil, toute la difficulté justement aussi peut-être du rapport de l'entraîneur qui doit être le patron mais qui finalement est quand même payé par le joueur. C'est un truc, je trouve, qui n'est pas si simple à gérer,
Tu
j'imagine.
vois même très bien aussi, je te coupe, mais avec les parents. Les parents qui, du fait qu'ils payent un truc pour leurs enfants ou tu vois ou le mec qui a 17 ans, les parents qui payent se donnent le droit entre guillemets de pouvoir intervenir parce qu'ils payent. C'est pareil, ce truc ouais, de paiement, ça crée, je trouve, une espèce. Enfin, c'est le seul moment, c'est le seul dans la vie, c'est le seul moment où tu peux pas intervenir. Enfin, tu peux pas intervenir dans les limites du raisonnable. Mais je veux dire, tu payes un coach, c'est pour que le coach réalise une prestation que toi, en tant que parent, tu peux pas faire. Moi, je vais pas aller voir le père qui est électricien en lui disant, faut que tu changes de fil, faut que tu changes d'ampoule, machin. Donc, c'est des trucs qui sont, c'est comme tu dis, c'est pas si facile.
Non, c'est très dur. Enfin, là, tu parles du problème de l'ingérence de certaines personnes dans les différents entourages de joueuses et de joueurs. Ça existe depuis toujours et en effet, on a tous l'impression, au bout d'un moment, parce qu'on a accompagné, alors je parle du sport encore plus, on a accompagné son enfant ou je sais pas, son neveu ou n'importe, sans être pour autant prof de tennis, savoir tout ce qui lui. Parce qu'on le connaît mieux que quiconque. On sait enfin, comment. Or, les compétences, elles ont des limites, les compétences, évidemment. Et là où il faut justement faire la part des choses, mais c'est un sujet, encore une fois, très vaste, pas si simple, parce qu'il y a eu malgré tout des réussites de parents, et pas que, qui sont pas avec la formation d'entraîneur et qui ont réussi à amener leurs enfants à des niveaux très, très élevés. Donc, ça a valeur d'exemple, malgré tout, et c'est parfois un petit peu la difficulté, parce que c'est finalement exceptionnel et il faut surtout pas modéliser sur l'exception. Moi, voilà, il faut juste faire attention à ça.
Ouais, je suis complètement d'accord, mais comme les entraîneurs qui n'ont pas été très forts, mais donc qui ont pour moi un manque d'expérience, mais ce manque d'expérience sera pallié par une envie d'apprentissage. Les parents qui amènent leurs enfants très haut, c'est très bien, mais je pense que les parents font preuve aussi d'une ouverture et de vouloir apprendre à être meilleurs pour leurs enfants. Moi, ce que je reproche parfois, c'est de balancer des vérités ou des informations sans chercher à vouloir apprendre ou à connaître, ou etc. Mais bien entendu que les parents peuvent tout à fait accompagner, toujours en ayant le but, je trouve, de vouloir progresser, apprendre, etc. Et là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème.
Les accompagner, c'est une chose, les entraîner, c'en est une autre. Tu coaches Édouard, Roger Vasselin, Jürgen Melzer. Donc, ce sont les premiers joueurs que tu coaches. Tu commences par ces deux joueurs ou tu en as
Alors non, j'ai eu un joueur d'abord à moins 15 en futur qui m'a demandé de l'accompagner, que j'ai accompagné pendant 3 mois sur une tournée française avec tous les futurs en France de septembre-octobre. Donc ça m'a permis aussi de voir par exemple le niveau des qualifs dans les futurs. Ça m'a intéressé de voir évoluer les joueurs à un classement un peu inférieur. Pourquoi ils se retrouvent là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, etc. Donc ça a duré 2 mois. Après, ça s'est terminé parce que lui, il était dans la région parisienne. Moi, j'étais à Bayonne. Et puis, je lui ai exprimé l'envie aussi de vouloir l'accompagner tous les jours. Parce que c'est différent d'accompagner un joueur en tournoi seulement et de l'accompagner tous les jours et de le faire progresser sur des choses plus profondes au quotidien, etc., etc.
Édouard qui t'appelle et donc qui te propose
Ouais.
de s'occuper des deux.
Ouais. Édouard m'envoie un message, il me dit voilà, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Parce qu'on s'était vu à Lyon en fait en mai. J'étais avec Antoine Hoang, je l'accompagnais sur ce tournoi. On avait joué en double ensemble. Et il y avait Édouard qui jouait avec Dodig à l'époque. Et puis on avait fait quelques repas ensemble, ça s'était très bien passé. Et donc du coup, il m'a renvoyé un message donc à ce moment-là, en novembre-décembre, et pour me dire, bah écoute, voilà, moi je suis
Tu attendais un peu?
pas du tout.
Pas du tout. Donc, tu es super surpris, mais très excité, j'imagine, et super content.
Surpris, très excité, c'est exactement ça. Ouais, bah, très excité parce que bah, j'adore le double en plus. Moi, j'ai pas mal joué en double. J'ai eu la chance de jouer 2 fois Roland en double, ce que j'ai pas fait en simple, mais je l'ai fait en double. Et j'aimais beaucoup ça. Et ça m'intéressait grave. Ça me dérangeait pas du tout de partir sur du double. J'avais pas du tout envie de me dire, il faut absolument que je coache du simple ou quoi que ce soit. Mais alors, par contre, je pensais pas que ça allait être aussi dur. Bah, là, pareil, en termes de relationnel. Je me suis très rapidement rendu compte que c'était très dur, quoi. Parce que l'équipe de double, attention, l'équipe de double, tu as un joueur à gérer, tu en as un autre qui est différent et tu as l'équipe. Donc alors là, au début, ça m'a fait un drôle d'effet parce que les deux, même s'ils ont quasiment le même âge, la même génération, n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir dans la façon de gérer les entraînements, hors du court, les repas. c'est pas du tout les mêmes discussions. Par exemple, l'un aime bien parler de tennis ou adore parler de tennis, l'autre pas du tout. Donc, tu apprends à connaître les deux. En même temps, faut les mettre ensemble sur le terrain. Enfin, bref, donc je me suis rendu compte que ça n'allait pas être si facile.
Bah finalement, tu te rends compte que ce n'est pas juste sur le terrain que ça se passe, mais beaucoup en dehors aussi, finalement.
Bah ouais, parce que tu passes 24 heures sur 24 ensemble, quoi.
C'est très psychologique, en fait, quand tu parles, quand tu évoques tout ça. C'est vraiment les mettre dans toutes les dispositions possibles, individuellement, pour le collectif, pour réussir
à jouer. Ouais, en fait, t'es pas dans de la formation, t'essayes de prendre le meilleur de chacun, de les assembler et d'en faire quelque chose où chacun génère son maximum de son potentiel, mais sur des mecs qui ont énormément d'expérience. Jürgen, il a été top 10 en simple, qui ont beaucoup de certitudes. Les mecs, ça fait 20 ans qu'ils jouent. C'est pas moi qui vais arriver et leur dire il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça, machin. Donc, t'essayes de piquer, en gros, tout ce qu'il y a de plus positif chez chacun et de les mettre ensemble. Mais bon, voilà, là, on peut en discuter comme ça, mais c'est pas si facile que ça, quoi.
Ça s'est bien passé tout de suite avec Jürgen Metzer, justement. Dès le début, il ne te connaissait pas, lui.
Alors, lui, on s'était joué en match par équipe, en double, pour le coup. Et en plus, je l'avais battu. Donc, peut-être que ça a créé une espèce de crédibilité par rapport au fait d'être avec moi. Et avec lui, ça s'est très bien passé, quasiment tout de suite. Parce que Jürgen, ultra passionné. Jürgen, 39 ans, 8e mondial, tu lui dis dimanche matin à 7h30, on va faire 150 volées de coup droit, bah, il se lève, il y va, et puis il fait ses 150 volées, et il le fait avec passion, il adore regarder les matchs, il fait partie du board là, du circuit, il y a des réunions de 6 heures où il parlait que de trucs, à se prendre le chou, mais il adore ça, quoi. Voilà, c'est un mec qui vraiment, il adore ça, donc tout de suite, ça s'est très bien passé, et j'ai eu aucun problème avec mon rôle. Il m'écoutait beaucoup, ça m'a beaucoup surpris au début. Donc, je pouvais lui donner des conseils, je pouvais l'orienter. Il était très à l'écoute, quoi. Très, très à l'écoute.
Mais vous tombez donc… ça, c'est quand exactement, quand tu récupères donc cette équipe et que tu dois les coacher?
Eh bien, juste avant l'Australie. Fin décembre, on fait 2-3 jours avec Edouard, mais il était tout seul, juste Edouard et moi. Et Jürgen, je le rencontre vraiment en arrivant à Adélaïde, en Australie. Mmh.
Et comment tu vis alors justement le début, le confinement, cette année quand même très perturbée par le coronavirus? Ouais,
on arrive en Australie, je te rappelle, il y avait les incendies là, tu te souviens?
Oui, très bien. Bien sûr,
les incendies, on ne sait pas trop, on y va, bon, c'était un peu, bon, finalement ça a pu se jouer, machin. Moi c'était le début, donc pareil, le temps de prendre des marques. Voilà, c'est pas facile. Donc bon, j'essaie d'observer beaucoup. On fait la tournée australienne qui ne se passe pas super bien, il ne faut pas se mentir. Il y a un match à Adélaïde, un match en Australie, on rentre. Et après, il y a Rotterdam, ils perdent au premier tour. Non, avant, ils font Montpellier, ils perdent au deuxième tour aussi, je crois. Enfin bref, un début pas tip-top, quoi, tu vois. Donc, bon, j'aurais pas forcément préféré que ça se passe autrement. Bon, on essaye de… Et puis, très rapidement, on est coupé par le Covid, quoi. Donc là, le Covid, terrible. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Lundi matin, donc Edouard est à Indian Wells, peinard, ça se prépare. On sait qu'il y a le Covid, mais voilà, ça a lieu. Et puis là, je reçois un message à 4h30 du matin, Edouard, qui m'envoie l'image du truc ATP, Indian Wells, annulé, terminé. Donc, je me réveille à 4h30, je ne sais pas trop ce qui se passe, je regarde, machin, j'y crois à moitié. J'avais l'avion à 10h30 pour partir là-bas. Donc, ma valise était déjà prête, machin, et là… Donc, tout annulé, on ne savait pas trop pour Miami. Et donc, on se retrouve à attendre. Impuissant, quoi. Impuissant face au truc.
Chacun chez soi, finalement. Chacun rentre chez soi.
Ouais. Et puis surtout, on n'avait aucune vue sur un retour à la compétition proche. Donc, je leur demandais même pas ce qu'ils faisaient. Je veux dire, les mecs, ils sont grands, ils savent gérer leur truc. Au début, on avait espoir pour Monte-Carlo, tout ça, la terre battue, que ça se passe. Bon, finalement, tout a été annulé jusqu'à août. Et en août, on a essayé d'arriver assez tôt pour Cincinnati et l'US à la reprise pour essayer de s'entraîner un peu, machin. Mais pendant tout ce qui s'est passé avant, on s'envoyait des messages de temps en temps. Mais c'était…
Tu parles d'un début assez mitigé en termes de résultats. À aucun moment, toi, tu es remise en question? C'est-à-dire que malgré les premiers tournois, les premiers échanges, les premiers résultats, tu ressens
Non, parce
que
que...
tu as confiance, tu sens que tout va bien, tu sens que de toute façon, enfin, comme tu dis, ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de bouteilles et ils sont, c'est peut-être pas des joueurs à remettre la faute bêtement, enfin bêtement, j'exagère un peu, mais sur le
Ouais.
entraîneur tout de suite,
Non,
tu
mais
le
quand bien même ils avaient super bien joué, j'estime qu'au
ressens.
début, j'aurais été pour rien, quoi, tu vois. Là, moi, j'étais plus en période d'observation, de rencontre, de savoir ce que j'allais pouvoir apporter à l'un, à l'autre, à l'équipe. Donc, moi, si tu veux, ça s'est arrêté. J'étais encore en observation. C'est trop dur. Tu sais, tu joues des matchs. Puis alors, le double, bonjour, hein, ça se joue à des micro-détails. Faut trouver. Puis c'est aussi l'inconvénient du très très haut niveau, c'est que les mecs font 98% de choses très bien. Tu as 2% de choses qui sont un peu moins bien. Donc, faut mettre le doigt sur les 2%. Faut leur expliquer ce qui ne va pas dans ces 2%. Faut qu'ils l'acceptent. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Après, c'est comme tu dis, dire les choses. C'est pareil, moi, tu vois, avec ma carrière que j'ai eue par rapport à eux, faut aussi y aller, Jürgen, qui était 8e mondial en simple, et lui dire, écoute, Coco, t'as volé de coup droit, faut mieux que tu fasses ci, machin. Bon, c'est pareil, au tout début, le mec, il peut me dire, bon, il est mignon, mais donc soit il part dans l'optique de se dire, bon, il est là, voilà, c'est moi qui lui ai demandé de venir, machin, j'écoute. Soit il dit, bon, le mec. Donc, au final, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver mes marques, quoi. À savoir quand est-ce que je pouvais leur dire quelque chose ou pas. Et c'est voilà, c'est pas si facile.
Tu les prends un peu plus tard, tes marques d'ailleurs, tu as le sentiment de te sentir totalement à l'aise dans ton rôle de coach, à quel moment auprès d'eux?
Alors là, je pense que tu peux être surpris parce que le moment où je me sens complètement à l'aise, c'est et où je trouvais mon où je trouve mon rôle vraiment et où je peux les accompagner vraiment à être meilleur, c'est à Vienne. Donc Vienne, c'est quand même 4 semaines avant la fin de l'année, quoi. Le reste, j'essaye, mais j'ai pas confiance en moi, pas assez confiance en moi pour. Alors si, bon, si quand même sur terre battue, je les ai quand même orientés à changer de côté, ce qui est quand même un peu important. C'est-à-dire qu'Edouard jouait à droite, Jürgen jouait à gauche, et moi j'étais à peu près persuadé qu'ils étaient meilleurs dans l'autre sens. Et sur terre battue, ils ont accepté de changer, et ça s'est tout de suite très bien passé. Ils ont fait demi à Rome. Et à Roland, ils perdent en menant 6-4, 2-0, 15-40 sur Cabalfara au troisième tour. Je fais un peu mal, tu vois. Mais bon, déjà, ça m'a fait du bien de sentir que je pouvais les aider et pas dire que des conneries, quoi, tu vois.
C'est la preuve
Et...
c'est quand même enfin, la preuve qu'ils sont vraiment à l'écoute pour opérer un tel
Ouais.
changement.
Ouais. Alors après, ils y pensaient aussi, pour tout te dire, hein. Je veux dire, c'était pas genre moi, je suis pas arrivé en disant, bon, les gars, c'est fini, maintenant on change. Ils y pensaient un peu, mais je les ai... Enfin, voilà,
Convaincu quand même.
j'insistais un peu pour qu'ils changent. Ils ont changé, ça s'est bien passé, tant mieux. Et après, on a fini la terre battue et ils ont rechangé de côté sur Durindor. Bon, parce que Jürgen, il avait des gros problèmes, il voulait pas retourner à droite sur Durindor. Pareil, le mec, il a 39 ans, il a des certitudes. Moi, tu pourras pas m'enlever que je pense qu'il est meilleur à droite qu'à gauche. Mais lui, il se sent meilleur à gauche qu'à droite. Donc, tu le laisses faire. Mais bon, voilà. Et donc. Et après, donc, arrive Vienne. Et Vienne, on a une grosse discussion, surtout avec Edouard, qui dure longtemps. Où, voilà, moi, je lui explique aussi que je ne me sens pas efficace, surtout avec lui, donc avec l'équipe aussi. Voilà, je sens que je n'aide pas vraiment l'équipe, enfin, que j'aimerais l'aider plus. Et à partir de là, on discute beaucoup, on commence à une discussion assez profonde. Et puis après, bah, il fait un pas vers moi, je fais un pas vers lui, on discute plus. Et d'un coup, ça prend une dimension qui est beaucoup plus importante. C'est fou parce que bah, tu règles souvent les choses avec des discussions. Et là, bah, il aurait fallu qu'on discute plus tôt. Mais le problème, c'est que, bah, par exemple, avec Edouard, c'est un peu plus difficile de discuter qu'avec Jürgen. Bah, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et puis voilà. Donc du coup, on discute seulement à Vienne, une vraie discussion d'une heure et demie qui fait changer les choses. Et après, à Bercy, ils font demi-finale. À Sofia, ils y vont parce qu'il fallait se qualifier pour Masters. Ils font finale, on ne joue pas la finale. Et ils font finale au Masters. Et puis, ça se termine très bien, tu vois. Et pour le coup, sur ce que j'ai vu sur les matchs, là, j'ai eu vraiment le sentiment des 2% dont on parlait tout à l'heure d'amener au moins 1%, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'était hyper important. Et d'ailleurs, à la suite de ça, bah, voilà, Edouard qui était très content et du coup, on repart ensemble l'année prochaine, etc. Mais c'est très long et c'est très dur.
Là, moi, j'ai vraiment envie que tu nous racontes cette fin d'année quand même, parce que tu parles évidemment de cette discussion qui fait office un peu de déclic à Vienne,
Mais
avec un
parcours,
moment.
ouais.
Et à partir de là, derrière, enfin, vous enchaînez des semaines de dingue. C'est-à-dire que bah, concrètement, par rapport à ce que vous avez vécu tout au long de l'année, ça n'a plus rien à voir. Vous êtes en ligne de mire, focus sur la qualif pour Londres, et puis vous allez la chercher sur le
Alors en
fil.
fait, ça part, ouais, et puis ça part de Roland, où donc on prend le coup de massue sur Cabal Fara, et on sort de là, et Jürgen qui nous dit, vous avez vu qu'on est 9e à la race, en double, quoi. Alors moi, je suis là, mais je lui dis, comment 9e à la race? Je lui dis, les grands chelems, c'était quand même deuxième tour en Australie, premier tour à l'US, et troisième tour en Roland. Il y avait une demi en Master 1000, je me dis, comment, à quel moment on va être 9e à la race, quoi. Quand même, tu vois, tu te dis, bon. Et donc on commence à analyser, vu que c'était une année spéciale, bah voilà, les équipes n'ont pas tout joué tout le temps ensemble, machin, bref. Donc on se retrouve à être 9e et puis avoir vraiment ça comme objectif. Donc du coup, ils partent à Saint-Pétersbourg, ils gagnent Saint-Pétersbourg.
Mais tu vas pas avec
Donc ça...
moi, là.
Non, je vais pas, parce qu'en Russie, c'était un peu... déjà, c'était une galère pour y aller. Et puis après, avec les tests Covid, machin, c'était un peu... Enfin, on avait un peu peur. Après, ils vont à Cologne. Bah, attends, mais attends, après, c'est pas compliqué. Ils ont joué toutes les semaines. Attends. Depuis Rome, ils ont joué toutes les semaines sauf une semaine. Rome, donc, qui était début septembre. Hein. Donc, de début septembre à fin novembre, ils ont joué toutes les semaines sauf une. Et ils n'ont pas arrêté, quoi. Et donc, du coup, ça a commencé à être la course au point, la course-poursuite. Et puis, voilà, c'était hyper serré. Et au final, Bercy, la demi-finale horrible, ils perdent à l'arrache le samedi soir à 20h. On finit à 20h30. À 10h10, on avait l'avion pour Sofia. Le lendemain, et là, fallait aller dans un 250 avec Murray Skupski qui était 9e, qui était juste derrière nous. Alors, ils ont commencé par gagner leur premier match, donc ils étaient qualifiés. Nous, on a regagné, ils ont regagné, on a regagné, et puis ça a monté comme ça jusqu'à la finale où nous, on savait qu'on était qualifiés. Donc, on a décidé de pas jouer la finale. Ça a un petit peu fait parler, machin, mais l'ATP était parfaitement au courant que si on était en finale, on était qualifiés, et que la finale était le samedi et que le Masters commençait le dimanche. Donc, en termes de logistique, on aurait pu faire mieux. Mais bon, bref, voilà, donc qualifié. Puis après, on s'envole à Londres. Et alors là, Londres, c'était fabuleux parce que c'était ce dont on parlait. Voilà, c'est le pourcent qui a fait que d'un coup, ils se sont mis à battre des bonnes équipes en revenant de 7-1 au Super Tie Break ou 7-3 au Super Tie Break. Enfin, je crois que tu as commenté, non, un des
Oui, tout à
matchs
fait.
aussi.
J'ai commenté quasiment tous les matchs. Il n'y en a qu'un seul, je crois, que je n'ai pas commenté. C'était. Non, non, j'ai trouvé ça enfin, dingue, les
Alors,
scénarios.
t'as trouvé ça comment, dis-moi?
Mais je me suis dit, non, attends, tu rigoles. Enfin, après, tu sais, c'est ce que tu dis, en double encore plus, ça se joue à 2-3 points. Ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre. C'est dingue. Donc en fait, même si je me rappelle le premier match, je crois qu'il gagne 7-6 le premier, mais tu les sens. Moi, je les trouvais moins forts, notamment sur le
Ouais.
premier match. Et ils prennent d'ailleurs 6-1, je crois, au deuxième. Ils perdent au
Et
Super.
10-4.
Tu sentais qu'honnêtement, s'ils avaient gagné ce match, ça aurait été un petit hold-up parce que j'ai
Bien
trouvé
sûr.
qu'ils
Bien
étaient
sûr.
un petit peu inférieurs. En revanche, après, sur les autres, j'ai trouvé vraiment que c'était à chaque fois très équilibré et qu'ils arrivaient à avoir l'étincelle au bon moment pour pouvoir sortir le bon coup, jouer tactiquement un peu plus juste et trouver cette espèce de ressource, enfin, ce petit supplément d'âme qui a fait la différence. Et ça se joue à chaque fois sur 3-4 points. C'est extraordinaire. Après, ils sont menés. Non, mais... Et puis, donc, on vous voyait, enfin, et donc toi aussi, dans... avec, j'imagine, toutes les émotions que ça peut aussi générer. Nos Masters, on est à Londres, c'est quand même le Graal, tu vois, pour tout joueur de tennis. Peu importe que l'année, j'imagine, parce que tu l'as souligné, soit différente, perturbée, et que toutes les équipes n'aient pas joué tout le temps ensemble, à un moment, ça, tu le mets de côté, tu t'en fous, tu es à Londres. Et
Bah attends,
l'objectif, c'est
vas-y, ça
bien.
fait
Et honnêtement, après ce premier match, je vais être honnête, hein, je suis assez sceptique
Ah bah
sur
non, surtout que de l'année, ils n'ont pas battu une fois une grosse équipe.
le.
Et
Ouais.
c'est ce qu'on se disait, même avec Edouard, avec Jürgen, on était très sincères. On se disait, franchement, pour le moment, si on ne va pas au Masters, faut pas se mentir, on ne le mérite pas. Pour le moment, on n'a pas battu de grosse équipe en Grand Chelem, deuxième tour, premier tour, troisième tour. Si tu veux, pour le moment, on n'a pas on n'a pas le niveau pour rivaliser avec ses meilleures équipes, pour les battre, etc. Parce qu'ils ne les ont jamais battus. Tu vois? Donc, et d'un coup, donc se passe ce truc où moi je mettais énormément l'accent sur leur attitude, sur la tête, sur le fait d'être tout le temps à fond, sur machin, et parce que c'est pas dans leur nature. surtout Edouard qui, lui, a plutôt tendance à réciter son tennis et il le fait monstrueusement bien. Mais à un moment, je pense, et j'ai essayé de lui expliquer, que dans l'esprit d'équipe, ça a une limite. Je pense que ça ne rend pas assez service à Jürgen. Enfin voilà, chacun jouait un petit peu de leur côté. Et moi, j'aurais aimé qu'ils soient beaucoup plus ensemble. Et alors, c'est l'apothéose complète quand à 7-1 ou 7-3, je ne sais plus, au super tie-break, ils gagnent le point et ils se regardent tous les deux en serrant le point, en hurlant common, comme si c'était eux qui menaient 7-3 et ils arrivent à remonter, machin, et ils leur passent devant et ils gagnent. Et pour moi, ça, c'est énorme parce que je suis persuadé qu'avant, ils ne l'auraient pas fait. Voilà, donc j'ai quand même... Bon, c'était ça, en gros, le sujet de la discussion qui a duré une heure et demie, c'était que j'essayais de lui dire, on ressort d'un match à Vienne, en fait, où lui a très bien joué et Jürgen a complètement coulé. Parce qu'il était, en gros, il était chez lui à Vienne sur son dernier tournoi. On était tout seul sur le court 1, il y avait zéro personne. J'imagine Jürgen, c'était quand même... bon, en Autriche, c'était quand même un mec qui a pris de la place, quoi. Et on finit par jouer contre Kubot Melo sur le court 1 à 20h30, il n'y avait personne. Et si tu veux, Edouard fait son double de son côté en jouant très bien. Et Jürgen de l'autre casse une raquette à 5-5 complètement implosée. Complètement implosée. Et il pensait au Master s'il était sous pression, machin. Et j'avais un peu reproché à Edouard de mettre un mur entre lui et Jürgen et de lui réciter son truc sans vouloir être dérangé par l'attitude de Jürgen. Or, je lui dis, mais à un moment, Edouard, il faut que toi, tu casses ce mur et que tu ailles l'aider, quoi. Quitte à ce que toi, tu perds 2% de ton jeu, de ta réussite, même si ça te fait perdre 2%, si ça ramène 10% à l'autre, bah pour l'équipe, ça ne fait que monter, quoi. Et donc, c'était énormément sur le relationnel avec son partenaire. Et d'un coup, ça s'est mis en place. Il a fait l'effort. Et je le remercie d'avoir fait l'effort d'aller beaucoup plus vers Jürgen. Jürgen se sentait mieux, l'équipe se sentait mieux. Et lui, ça ne l'a pas forcément gêné du tout. Et du coup, il s'est comporté même en leader, ce qui a été un énorme changement parce que tu ne le vois jamais en leader, Edouard. Tu ne le vois jamais en leader. Il fait toujours son truc, il le fait bien, mais ce n'est pas lui qui… Et là, il s'est mis à porter Jürgen. Et, et voilà, quand à la fin, les deux arrivent à se regarder dans les yeux sur le terrain et revenir sur les équipes à 7-1 au Super Tie Break, c'est uniquement parce qu'ils sont tous les deux ensemble. Quoi. Ensemble. Et ça a été un travail… important et je reste persuadé et eux aussi sont d'accord sur le fait que ça a changé beaucoup de choses quoi.
Je sais que c'était pas la même équipe la seule équipe pardon qui allait se séparer après le Masters de Londres, mais est-ce que ça tu crois que ça a joué aussi dans la volonté forcément tu vois de se dire c'est notre dernière ensemble on va mettre du cœur comme jamais c'était pas un sujet au fond
ou c'était alors malheureusement, j'aurais aimé qu'on s'en serve plus et je pense que on l'a pas assez utilisé. Moi, ça me tenait à cœur pour Jürgen. Tu aurais dû voir Jürgen à Sofia, il était dans un état de tension parce qu'il voulait finir au Masters. Tu vois, le mec, il a 39 ans. Hein, tu lui dis, écoute, si tu vas en finale à Sofia, tu es qualifié pour le Masters. Et comme tu dis, le Masters, c'est le Graal, c'est le regroupement des meilleurs joueurs au monde, machin. Donc, il voulait en faire partie. Et il était tendu, mon pauvre, mais il était ultra tendu, quoi. Et donc, du coup, Edouard aussi était un peu tendu, mais c'était un peu différent pour Jürgen parce qu'il savait que c'était potentiellement ses derniers tournois, etc. Et j'aurais aimé qu'au Masters, ce soit encore plus là-dedans, quoi. Qu'on se dise, putain, on l'a mérité, on est allé le chercher. Jürgen, on va tout donner parce que c'est ses derniers matchs, machin truc. Mais bon, au final, voilà, j'en demandais déjà pas mal à Edouard. J'avais pas non plus envie de trop en faire là-dessus, quoi.
Donc toi, t'en retiens quoi enfin, de cette fabuleuse expérience là, de fin d'année tu parles des émotions et tout, mais ça va te servir, j'imagine, énormément pour la suite, parce que c'est presque une formation accélérée. Là, ces dernières semaines, ça a dû être une intensité.
Oui, mais même toute l'année. Hein. Même toute l'année, tu apprends aussi à… Moi, j'ai surtout pas envie d'oublier justement toute l'année, avec toute cette période, je te dis, où tu essaies de trouver tes marques. Ça, c'est hyper important, tu vois, de prendre des décisions, pour essayer de trouver ta place, etc. Bien sûr, la fin d'année, mais la fin d'année, c'est trop, on va dire que c'est entre guillemets trop facile. C'est que le positif. Bah, c'est comme quand tu joues. Tu sais, quand tu gagnes des matchs, c'est facile. Mais ce qui est, moi, je trouve aussi très important quand tu joues, c'est les moments où tu perds. C'est là où tu te regardes, pareil, tu te regardes, tu vas voir au fond de toi-même ce qu'il y a, si tu as envie vraiment d'y arriver, etc. Quand tu gagnes, c'est trop facile. Mais les moments où c'était dur aussi, je les retiens et dans l'apprentissage. Et bien sûr, les moments où tu gagnes, tu les prends aussi en apprentissage. Mais c'est deux. j'ai pas envie de garder que la fin d'année, quoi. J'ai envie de garder toute l'année. Et bien sûr que tu, bah ouais, t'apprends plein de choses sur toi, sur eux, sur les autres, sur la façon de gérer les événements, ce que tu dois dire, la façon dont tu le dis. Est-ce que ça peut être appliqué sur d'autres joueurs? Que chaque joueur est différent, mais vraiment chaque joueur est différent. Et ça, c'est fou parce que là, tu vois, par exemple, Edouard, il va jouer avec Kontinen l'année prochaine. Kontinen, je le connais pas du tout. Et ben, je vais réapprendre à connaître quelqu'un.
Et lui, il n'a pas de coach de son côté?
Non, il n'a pas de coach.
D'accord. Non. Donc, l'idée, c'est que tu coaches les deux, l'équipe, à chaque fois?
Pour le moment, évidemment, Kontinen, il ne me connaît pas du tout. Donc, c'est dur de dire, bah, vas-y, on part avec lui. Donc, je pense qu'il y aura une espèce de, bah, voilà, d'essai. Bon, moi, je partirai avec Edouard en Australie, par exemple. Et puis, bah, on aura quand même 2 semaines pour s'entraîner dans l'hôtel en Australie. Donc, au bout de 2 semaines, j'imagine que, voilà, il va se passer des choses. On va communiquer, on va s'entraîner. Donc, à mon avis, il y verra déjà plus clair sur moi au bout de 2 semaines, même si, à mon avis, on se connaîtra pas encore complètement.
Une petite parenthèse sur l'évolution du jeu. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton point de vue un petit peu sur tout ça? Tu sais qu'il y a eu pas mal de sorties médiatiques ces derniers temps, notamment par exemple sur les grands chelems, réduire, tu vois, à 2-7 gagnants les matchs en 5-7. Djokovic en a parlé. Ça, c'est un sujet parmi tant d'autres, mais réduire globalement la durée des matchs, c'est quelque chose qui te parle, toi, en tant que coach ou pas?
Ben moi, je ne comprends même pas comment on peut penser à faire passer les grands chelems en 2-7 gagnants. Quoi. C'est ce qui rend les matchs si épiques de voir les mecs au bout du bout et d'aller chercher encore plus au bout du bout. Mais de même, à peu près du même style que je ne comprends pas du tout le fait de vouloir être coaché. On parle aussi du coaching sur le terrain. Ouais. Je veux dire, t'enlèves à ce moment-là. Ce qui fait que le tennis est un sport si différent des autres, c'est que c'est le seul sport où tu es tout le temps tout seul. Tout le temps, tu te démerdes tout seul. Et c'est, je trouve, un truc… Quand tu es joueur, tu le sais. Quand tu es joueur, voilà, quand tu te retrouves tout seul, pareil, sur un futur au fin fond de la Turquie et qu'il y a zéro personne et qu'il y a du vent et qu'il fait chaud et que tu as une petite douleur sur le coude et que machin, et que tu es tout seul… Eh ben, c'est aussi là, je trouve, que t'apprends à te connaître et apprends à savoir ce qu'il y a au fond de toi et trouver des solutions face à l'adversaire. Ça en fait partie, quoi. Tu vois. Donc, c'est vrai que le coaching sur le terrain, c'est un truc, moi, je suis pas du tout pour parce que je trouve que t'enlèves une partie de l'identité du tennis. Voilà, je trouve. C'est mon avis.
Ceux qui mettent ça en avant, j'en fais pas partie, je te rassure, c'est le fait…
C'est pas grave, j'en fais partie.
C'est finalement le fait de trouver très hypocrite que le coaching n'existe pas actuellement et qu'en fait finalement l'objet c'est de dire arrêtons cette hypocrisie aujourd'hui.
Pas du tout. Là je suis pas du tout d'accord.
Il y a cette partie et il y a une deuxième partie je pense qui est aussi pour la dimension un peu spectacle de notre sport et le faire évoluer parce qu'on parle d'évolution donc des règles et qui voit justement ce coaching on court quelque chose de plus télévisuel peut-être pour les spectateurs et les téléspectateurs, quelque chose de plus sexy, de plus attractif. Voilà, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça. Mais que moi je considère comme toi que ça dénature totalement l'essence même du sport individuel qu'est le tennis et la dimension mentale prend toute sa dimension justement quand tu es tout seul livré à toi-même et que tu dois trouver en toi les solutions et que tu as travaillé pour, le coach il est là pour armer, outiller le joueur et vraiment il doit se débrouiller tout seul le joueur seul. Pour moi c'est comme ça.
Je trouve qu'on fait preuve mais d'un machisme à mettre le coaching pour les filles et pas pour les mecs, mais je trouve ça mais abominable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les filles ne peuvent pas réfléchir sur le terrain, tu vois? Moi je trouve ça mais… Alors je discutais avec Dorian Desclois qui est entraîneur d'Azarenka. On discutait à l'US et il me dit bon, faut que je te laisse parce qu'il faut que j'aille préparer le match. Donc, il lui fait une copie double, tu vois. Il écrit tout sur une feuille, machin. Il écrit tout. Il prépare tout. Il prépare exactement de telle façon. Tu dois retourner là, machin, truc, bidule, machin. Il donne le papier à Azarenka et Azarenka, tout le changement de côté, elle lit son truc. Et à la limite, si à un moment… Enfin, il y a des moments où elle lui dit « Mais pourquoi je fais ça, machin, alors que tu m'as dit de faire ça ?» À un moment, il lui a dit « Mais écoute, démerde-toi, quoi. » Je veux dire, si tu sens mieux de jouer longue ligne que croisée sur ce coup-là, Et si tu veux, t'en arrives là, quoi. T'en arrives au fait que les nanas ne réfléchissent plus d'elles-mêmes sur c'est le coach qui va décider avant chaque frappe, bah, joue croisé, joue long de ligne, machin. Et putain, à un moment, les filles, elles sont capables de réfléchir. Je veux dire, c'est fou d'en arriver au truc de dire, bah, les filles, elles sont trop bêtes, donc du coup, on va leur mettre le coaching pour les aider, machin, truc. Et du coup, je trouve que ça stéréotype encore plus les joueuses, comme on le voit, je trouve, aujourd'hui. Et je trouve ça terriblement triste, quoi. Je veux dire, pour qui on se prend à dire que les filles ne sont pas capables? Pour moi, je vois ça comme ça. Et je trouve qu'elles se penchent là-dessus, qu'elles comptent vachement sur leur coach pour leur dire comment elles doivent jouer vraiment de façon très précise. Que tu donnes des directives avant le match, que tu prépares un match, que tu dises, bon, voilà, machin sur deuxième, il est un peu fébrile, machin. OK. Mais vraiment que ce soit un truc ultra détaillé où tu as le droit de parler à la joueuse, où tu vas la voir au changement de côté ou machin. Hein. Pourquoi les filles plutôt que les mecs ou, enfin, bref.
T'es contre le coaching.
Ouais. Mais ouais, parce que je trouve ça vachement bien de devoir se démerder, quoi.
Complètement d'accord. Après, par rapport justement, pareil, sur aujourd'hui, la volonté de réduire, d'aller sur des short sets, pourquoi pas, d'aller sur la réduction, encore une fois, tu sais, de ces matchs en 5-7, donc chez les mecs, en grand chelem, en 2-7 gagnants, c'est pareil, c'est un truc qui, pour toi, te semble totalement incohérent.
Mais non, mais alors, tu vois, pour le coup, j'ai lu le livre de Gilles.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et bon, il y a des trucs où je ne suis pas forcément d'accord, des trucs où je suis d'accord, mais il y a des trucs que je remarque, que je vois de plus en plus, c'est que c'est vrai que, mais c'est triste. Par exemple, les jeunes regardent très peu de tennis. Ou alors, comme il dit dans son livre, et ce qui est complètement vrai, c'est que les jeunes se gavent de highlights. Donc, c'est des trucs qui durent 8 minutes. Où tu vois que des coups gagnants, et si tu veux, tu as l'impression de gagner du temps. En fait, tu te fais plus chier à t'asseoir ou regarder un match dans son intégralité. Or, c'est dans son intégralité, je trouve que c'est le plus passionnant, quoi. De voir même ce qui se passe entre les points, de voir des fautes directes, pourquoi c'est fait, pourquoi. Et du coup, tu crées, je trouve, une espèce d'autre sport, le tennis, que des coups gagnants. Et les jeunes regardent que ça maintenant. Donc l'intérêt en fait de réduire les matchs, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pareil, les gens veulent regarder des trucs très courts pour ne pas regarder trop de fautes directes. Pour, enfin, je comprends pas très bien.
Qui regardent les highlights parce qu'ils n'ont pas accès à des chaînes qui sont peut-être des chaînes payantes et donc
ouais.
Avoir accès aux highlights parce que c'est peut-être tout simplement gratuit et accessible.
Ouais.
Voilà, ouais. La raison, il faut la connaître après, parce que moi, j'en sais rien. Peut-être que les jeunes aujourd'hui n'ont pas tous accès à la possibilité de visionner justement des grands chelems et donc de suivre le match entier. Et donc, forcément, tu te fais, enfin, de manière un peu réductrice, tu te fais que les highlights, quoi.
Ouais, je suis d'accord, mais moi, je te dis ça pas forcément. Enfin, je te dis ça pour la télé, mais je te dis ça même sur les tournois que je vois, les futurs, les challengers. Je trouve que les mecs ne vont pas voir beaucoup les matchs des autres, s'intéresser aux trucs. Enfin, le tennis en profondeur, quoi. Je trouve qu'on reste beaucoup sur de la surface.
C'est pas générationnel, ça, aujourd'hui, la volonté de consommer la fameuse consommation fast-food, comme dirait Seb.
Ben si, mais c'est tellement dommage, je trouve. C'est tellement dommage parce que ça nous conforte dans l'idée que... Moi, par exemple, je fais partie de ceux qui pensent que Daniil fait un bien énorme et va faire un bien énorme au tennis parce que pour moi, il révolutionne. Bon, c'est pas une énorme révolution, mais pour moi, ça révolutionne le jeu du tennis. Tu vois, quand tu regardes Daniil, tu vois un vrai joueur, quoi, tu vois. Et je trouve que moi, le fait qu'il gagne contre les mecs très forts et qu'il les rende dingues, alors que tu te dis, il fait des coups droits comme ça, il fait des volées comme ça... Tu te dis le mec c'est pas, et finalement il arrive à tous les battre en jouant vraiment, tu vois, et je trouve que ça amène une dimension qu'on avait un peu perdue.
Toi tu t'exprimes en tant que grand passionné,
ouais,
donc grand connaisseur. Aujourd'hui le principe de ces évolutions, il me semble que c'est d'aller chercher un nouveau public,
donc réduire le jeu pour ouais, c'est de la consommation. Pour moi, c'est exactement comme les chanteurs qui sortent un album ou une chanson toutes les deux semaines pour essayer d'avoir le plus possible de personnes qui écoutent machin, plutôt que d'en sortir une tous les ans, mais une de qualité. Moi, je préfère rester dans le jeu dans ce qu'il y a de plus profond dans le tennis. Et peut-être que oui, peut-être que c'est trop passionné, mais sinon, ça veut dire, ouais, sinon, ça veut dire voilà, que c'est de la consommation, que le but, c'est d'avoir le plus de spectateurs possible et de tout faire pour en avoir le plus possible. Et ça, je ne suis pas forcément pour.
Et donc, pour avoir plus d'argent, plus de business, plus de droits télé.
C'est le pouvoir de l'argent. Hein.
La question, c'est de savoir si vraiment le tennis est malade aujourd'hui. Quand je dis ça, je ne crois pas. Il y en a certains qui me répondent et qui me disent « Oui, mais regarde, au-delà de la 200e place, ça ne gagne pas d'argent. » Ça, on n'a jamais gagné. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que ce n'est pas récent, ce n'est pas nouveau. Tant mieux si ça peut demain, en effet, aller vers plus d'argent pour plus de joueurs. Et ça, c'est une question de redistribution, je crois, des enveloppes, finalement, peut-être des Masters 1000, des Grands Chelems ou des droits télé, pourquoi pas, si demain, il y a une enveloppe globale pour tout ça. Mais il ne faut pas se tromper de débat et je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens parfois, malheureusement.
Oui, le tennis est malade. Bah, forcément, une fois que tu as les trois meilleurs joueurs de l'histoire qui jouent ensemble pendant 15 ans et qu'il n'y a plus les trois meilleurs joueurs de l'histoire qui jouent ensemble pendant 15 ans, bah, forcément, oui, ça va faire un petit creux. Je peux pas on peut pas non plus fermer les yeux là-dessus. Mais encore une fois, je pense que Daniil fera énormément de bien au tennis. Voilà. Et amènera pour les passionnés le tennis dans une dimension qui est très 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 intéressante et qu'on a quasiment jamais vu, je pense.
Pour les passionnés, t'as complètement raison. Écoute, on a fait quand même un sacré grand tour d'horizon malgré tout. Ça fait un petit moment qu'on discute, qu'on échange. Je sais qu'on pourrait continuer encore des heures, mais il va falloir malheureusement s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Eh ben, que ça se passe bien avec Edouard et Henri l'année prochaine, voilà, d'être en bonne santé, parce que ce n'est pas si évident aujourd'hui, que l'année se déroule à peu près normalement et que le tennis puisse reprendre avec du public, parce que malheureusement, moi j'ai connu aussi cette année sans public et que c'est quand même pas pareil, quoi. Donc, oui, si on peut espérer tout ça et que le public revienne sur les terrains pour qu'on puisse avoir une ambiance de dingue l'année prochaine. Voilà.
Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Je te remercie vivement pour cet échange passionné.
Eh ben, merci.
Merci beaucoup, Grégoire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Salut.